Votre invité, Patricia Hugues-Jallon, le président des éditions du Seuil, pour le premier numéro de Par ici, la sortie.
Oui, on vous attendait avant de ressortir. C'est donc une nouvelle revue dont j'aimerais que vous nous parliez et que vous nous disiez pourquoi vous l'avez créée.
C'est une revue, enfin, plutôt des cahiers, puisqu'il n'y a pas d'abonnés, et puis on en prévoit la publication, on va dire, de manière irrégulière. On n'a pas prévu de date de publication du second, tout à fait, du troisième, on verra. C'est une idée qui est née quelques semaines après le début du confinement. Le Seuil est une maison qui a un esprit de mission. J'ai retrouvé, pendant la période du confinement, une note manuscrite d'un des cofondateurs de la maison qui disait que le Seuil avait pour mission de contribuer par le livre à l'avènement d'un monde nouveau, à franchir un seuil. Bon. Je me suis dit que la maison devait prendre date avec cet événement qui nous frappait tous et toutes, et prendre date aussi avec l'espoir qui s'est confirmé que les librairies allaient réouvrir. Et donc assez vite, on a pensé un projet éditorial, un projet d'édition.
Avec des intellectuels ?
Avec des intellectuels, et surtout qui serait d'encre et de papier. Ça, c'était très important pour nous, et d'accompagner la réouverture de la librairie à l'issue du confinement.
Mais comment est-ce qu'on peut penser une crise au moment même où elle a lieu ?
Alors ça, c'est très difficile, effectivement, parce qu'il y a eu le moment de la sidération, il y avait le moment de la tristesse, il y avait l'angoisse, et il y avait l'espoir également. Mais ça nous semblait important quand même de mobiliser les auteurs de la maison, à la fois les intellectuels, les chercheurs en sciences humaines, qu'on publie de manière régulière, en histoire, en économie, dans le domaine de l'écologie politique, mais aussi les écrivains, pour essayer de comprendre ce que cette crise avait provoqué chez eux, dans quelle mesure elle avait pu bouleverser, modifier certains cadres d'intelligence du monde contemporain, ou au contraire, elle pouvait à l'inverse confirmer certaines intuitions et certaines analyses.
Par ici, la sortie, c'est la sortie d'un monde à bout de souffle, c'est la sortie d'un monde qui est devenu invivable.
Absolument, c'est par ici la sortie, donc la sortie du confinement, c'est ce que je disais, accompagner le retour des lecteurs en librairie et pouvoir donner à penser sur cet événement qui nous avait tous touchés très fortement à l'échelle mondiale. Et évidemment aussi tenter effectivement d'imaginer un monde nouveau, différent. Dans la mesure où on a pu constater que cette crise, cette épidémie a considérablement exacerbé des contradictions qui étaient déjà présentes dans le monde d'avant, entre guillemets, d'avant cette
mais
épidémie, des contradictions économiques.
Pour reconstruire un nouveau monde, il faut en comprendre déjà les erreurs.
Il faut en comprendre les erreurs, mais ça, à la limite, les sciences sociales, les sciences humaines, ça fait 20 ans qu'effectivement je publie des ouvrages de sciences humaines, et c'est peut-être aussi une forme de désespoir qui parfois m'accable, c'est de voir à quel point le monde politique ou les acteurs politiques reprennent finalement assez peu les analyses qui sont formulées depuis maintenant plusieurs décennies sur un certain nombre de sujets sur les questions, notamment par exemple les questions écologiques. Quand on y pense, j'y repensais en venant à l'émission, le premier rapport sur les limites de la croissance date de 73, c'est le rapport du Club de Rome, ça fait presque 50 ans.
C'est pas décourageant, ça ?
C'est un peu décourageant, c'est-à-dire moi j'ai publié énormément de livres, par exemple, sur le néolibéralisme, ce que fait le néolibéralisme à l'école, ce que fait le néolibéralisme à l'hôpital, à la poste, même je me souviens d'avoir publié un livre sur le néolibéralisme chez les pompiers. Le diagnostic sur les contradictions et les impasses d'un certain modèle de développement, d'un modèle de croissance, il a été fait depuis de longues dates. Aujourd'hui, c'est la cristallisation politique qui sans doute manque terriblement, et on le constate évidemment chaque jour.
Des politiques à la traîne, finalement.
Des politiques à la traîne des idées. C'est-à-dire que c'est ce que, effectivement, les idées sont là, elles sont disponibles, il n'y a qu'à se pencher pour les prendre et s'en saisir.
Et lutter, ne pas oublier la lutte.
Et lutter, ça me semblait très important, effectivement, et c'est pour ça que j'ai choisi dans l'éditorial de mettre cette citation de Victor Hugo, ceux qui visent, ce sont ceux qui luttent. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas oublier et qui permet à mes yeux d'articuler dans le cadre de ce projet Par ici la sortie à la fois le travail intellectuel et un certain travail d'investissement citoyen ou politique dans la cité.
Mais ceux qui luttent, c'est ceux aussi qui savent mettre en pratique, en fait.
Oui,
sinon,
ceux qui font.
Sinon, ça reste des belles paroles.
Oui, enfin, des belles paroles. Enfin, je veux dire, les mots en politique, ça compte.
Bien sûr.
Ça compte. C'est Thomas Piketty qui le rappelle dans son entretien. C'est dans l'entretien qu'il a avec Patrick Boucheron. C'est les changements politiques concrets s'accompagnent de transformations idéologiques et intellectuelles, de formulations de concepts. Il y a un très beau texte de Manuel Villas dans le volume. Il dit, chaque mot attend son heure de gloire. Et il y a des mots qui attendent leur heure de gloire. Il y a des mots dont on veut plus entendre parler, peut-être. Le mot réforme, le mot croissance, le mot modernisation, le mot transition. Tous ces mots qu'on a entendus, qu'on continue d'entendre, des mots épuisés à certains égards. Ben, il y a d'autres mots disponibles et ces mots-là, il faut les faire émerger, il faut les imposer, et ça, c'est le travail des politiques.
Et la crise a eu un effet de loupe, de toute évidence.
A eu un effet de loupe sur beaucoup de choses, sur effectivement, qu'est-ce que ça signifie de retourner au foyer, notamment pour les hommes. Hein, on sait que le foyer a été historiquement le lieu de confinement des femmes. Et les hommes s'y sont retrouvés. Or, on s'est rendu compte en même temps que le foyer ne pouvait pas suffire, qu'on avait besoin du monde, que c'était compliqué le foyer pour élaborer des modalités d'action collective. On s'est retrouvés en fin de compte tous et toutes confinés à l'échelle du monde, mais complètement séparés. Donc ça, c'est une sorte de paradoxe assez ahurissant quand on y pense.
Vous parliez tout à l'heure de Patrick Boucheron. Lui, il est assez prudent parce qu'il se dit qu'il faut se garder de comparer des choses qui ne sont pas forcément comparables compte tenu de leur contexte, etc.
Oui, je pense qu'il a raison. Il y a une certaine prudence des sciences sociales, et en particulier dans son cas, qui est de l'histoire, qui doit être toujours mise en avant.
Entre Covid et la peste,
on fait pas, voilà, on dit pas tout, et voilà, on peut pas comme ça formuler, enjamber les siècles pour tirer des leçons sur le présent, pour le présent. Surtout qu'il restera, à mon avis, une sorte de mystère. C'est pourquoi des régimes, capitalistes, pour parler de l'ensemble des pays, plus ou moins libéraux, des démocraties avancées jusqu'à des dictatures, finalement ont accepté d'arrêter la totalité de leur fonctionnement économique pour préserver des vies. Je veux dire, historiquement, on peut se dire que ça n'a jamais empêché. Les gouvernements ont souvent, finalement, se sont autorisés à laisser mourir beaucoup de gens, que ce soit dans le cadre de guerres ou d'épidémies plus anciennes. Or là, qu'est-ce qui s'est passé pour que tout s'arrête? Ça reste un des mystères qui reste à percer pour comprendre ce qui s'est passé dans cette crise.
Et ça va changer quelque chose, Hugues Jalon, dans votre publication, dans vos publications aux éditions du Seuil?
Pour moi, c'était un projet très important qu'on puisse prendre date avec cet événement. On va le poursuivre, je l'espère, pendant les mois qui viennent. C'est vrai que ça a été un coup dur pour l'édition de voir la librairie fermée. On a perdu beaucoup de chiffre d'affaires. On a dû reporter des publications à l'année prochaine. J'ai fait un choix particulier qui est de pas modifier le nombre de titres de la rentrée littéraire en septembre, à la différence de certains de mes confrères. Mais c'est évident que ça a été un coup dur et il va falloir s'en remettre.
Merci Hugues Jalon. Par ici, la sortie.
Merci à vous.